Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Le plus beau gâteau d'anniversaire de la Terre.
Mais t'es sûr que c'est un vrai gâteau ?
C'est un vrai gâteau qui se mange, Elliot.
Il est au Kinder Bueno, apparemment.
Tu vas pouvoir manger une voiture, Elliot. Le rêve de ta vie.
C'est le gâteau le plus ouf du monde. Une DeLorean.
La classe, ouais.
Joyeux anniversaire, Bruno, dans la radio sur Fun. 49 ans quand même. Un petit aperçu de l'ambiance qui règne tous les matins sur la bande FM. Que ce soit sur Fun, sur Skyrock, sur Énergie, sur Chérie FM ou encore sur Rire et Chanson, le réveil en toute décontraction. Rien à voir sans doute avec le programme que les premiers auditeurs privilégiés ont pu entendre il y a 100 ans, lorsqu'ils ont tourné pour la première fois le bouton de leur poste de radio. Car aujourd'hui, dans la story, on ne fête pas la nif à Bruno, mais les 100 ans de la radio.
Il est 9h du soir et tous les cucirés de la planète sont vautrés dans leurs pantoufles, sirotant leur Xérès. Mais pendant ce temps-là, ceux qui aiment le rock et le roll vont encore une fois monter dans le grand 8 du rock'n'roll. Vous écoutez Radio Rock, je suis le comte, et je compte sur vous pour le compte à rebours vers l'extase, avec du rock all day and all of the night.
Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, et aujourd'hui, on va s'interroger sur l'avenir de la radio. C'est la semaine de la radio, un double événement. Il y a 100 ans, Radio Tour Eiffel émettait pour la première fois. Et il y a 40 ans, l'État libéralisait la bande FM. Un double anniversaire pour l'un des médias préférés des Français. Un média qui est à un tournant, alors que la crise sanitaire a fragilisé parfois ses finances et alors que l'émergence des plateformes Internet de divertissement et de musique viennent concurrencer les voix des journalistes et animateurs qui accompagnent nos paires d'oreilles parfois depuis notre enfance.
Now I love old radio stories, and I know a million of them. I've collected them down through the years, like a hobby. Anecdotes and gossip, and inside stories about the stars.
Je repense parfois d'ailleurs à ce film Radio Days de Woody Allen, véritable déclaration d'amour à la radio d'avant-guerre, quand la vie familiale s'organisait aussi autour du poste. Pour ma génération, c'est cela la radio, des souvenirs d'enfance, le top 50 sur Europe 1, mais aussi les radios libres qui ont bercé ma jeunesse, comme Radio Neptune dans la région de Brest et son émission Potache chez Raymond Séchou. Elle animait mes vendredis soirs sous la couette avec ses fausses pubs, ses canulars et un ton nouveau à la radio avec le professeur Sexus.
Un numéro de téléphone, votre vie va changer. Vos fantasmes intéresseront le professeur Sexus. Modulation de fréquence 95 MHz, Radio Raymond.
C'était une autre époque. Depuis, le média radio a vu émerger, comme la télévision, de nouveaux outils, de nouveaux moyens de divertissement, d'information. Pour autant, entre janvier et mars de cette année, plus de 40 millions de Français ont encore allumé leur poste chaque jour. C'est aussi en pensant à eux que le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, a décidé de célébrer cet anniversaire. Roch-Olivier Mestre, bonjour.
Bonjour Pierrick Fay.
Vous êtes président du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel. On va refaire un peu d'histoire. De quand date la première radio en France ?
En fait, la première radio française destinée au grand public a vu le jour en 1921. Il s'agissait de Radio Tour Eiffel. Jusque-là, après la victoire des Alliés et puis plusieurs années au service des militaires, la Tour Eiffel se dote en 1921 d'un émetteur civil et d'une station de radiodiffusion. Et donc la première émission de Radio Tour Eiffel sera diffusée le 24 décembre 1920 pour le plaisir à l'époque de quelques auditeurs qui paient de poste à galène, comme on disait. Au programme, c'était des bulletins météo, des émissions d'actualité ou musicales. Et c'est une radio qui, pendant 20 ans, a diffusé des programmes très variés, avec des célébrités de l'époque qui passaient sur ses antennes, comme Sacha Guitry ou Yvan Printemps. Et aujourd'hui, la Tour Eiffel reste un élément très important du dispositif de diffusion. Elle est le principal moyens de diffusion de la radio en Île-de-France, avec à son sommet donc pas moins de 48 panneaux d'antenne. Donc c'est un acteur important. Et le jour de la fête de la radio, donc le 31 mai au soir, la Tour Eiffel va s'illuminer aux couleurs de la fête de la radio, puisque elle est un symbole très important de l'histoire de ce média.
On entend ici le ténor italien Enrico Caruso dans l'opéra Madame Butterfly. Selon le site Radio TSF, ce serait l'un des premiers, sinon le premier morceau de musique diffusé à l'antenne de Radio Tour Eiffel. C'était le premier concert jamais diffusé à la radio française. Alors, je ne vais pas remonter avec vous jusqu'en 1921, mais je voulais savoir, Roch-Olivier Maistre, quel est votre premier souvenir d'auditeur ?
Mes premiers souvenirs d'auditeur, je crois que c'est des jeux. Il me semble, j'aurais tendance à dire le jeu des 1000 francs, honnêtement. Et puis, c'est vraiment à partir de mon adolescence et du premier transistor que j'ai eu que j'ai vraiment commencé à écouter de la radio dans les années 60 avec la chanson. Alors, à l'époque, moi, j'écoutais essentiellement les radios périphériques, si j'ose dire, principalement européen. Et j'ai un souvenir très fort qui m'avait beaucoup marqué. C'est la couverture par les journalistes la nuit des événements de mai 68 qu'on entendait sur le transistor. Il y avait une intensité de ces reportages en direct qui m'avait beaucoup marqué.
Devant moi, déjà, des barricades commencent à s'élever. Il y a déjà des manifestants qui sont sur les toits et qui commencent à préparer des projectiles. Et actuellement, je ne sais pas. Je ne vois pas si un service d'ordre peut contenir ce qui se passe. Les CRS n'ont pas bougé. Pour l'instant, c'est le début des barricades. Je vous rappellerai dès qu'il y aura du nouveau.
Et depuis, c'est un média auquel je reste extrêmement fidèle. Je trouve que la voix crée un lien très particulier avec ceux qui font la radio, qui... un lien affectif, je dirais. C'est, pour moi, la radio est un peu le média du cœur, un média où il y a une vraie fidélité qui se crée. Voilà, donc mes journées démarrent toujours avec la radio et souvent elles se terminent avec elle.
Là, sur le boulevard Saint-Germain, il y a un tas de sable, mais je viens de voir juste devant moi un policier qu'on emmenait, qu'on traînait, qui avait la figure en sang. Reculez ! Les étudiants chargent ! Il y a les policiers, ont reculé, même les CRS se font, ont formé une espèce de toit avec leurs boucliers.
Oui, c'est vrai que le traitement par Europe 1 de mai 68, ça a été là aussi un événement marquant pour ces radios. Pour la première fois, on sortait véritablement en France au cœur, on se retrouvait au cœur de l'événement et on pouvait faire vivre ça aux auditeurs. Alors moi, j'étais trop jeune, j'étais pas encore né, je dois l'avouer. Donc je n'ai pas pu avoir ce souvenir-là. Vous le disiez, vous, le rapport à la voix, cette proximité, c'est vraiment ce qui fait la force de ce média ?
Oui, vraiment, c'est vraiment ça qui fait la force de ce média. Je crois que d'abord, la particularité du paysage radiophonique dans notre pays, c'est son extraordinaire richesse et son extraordinaire diversité. On a des radios locales, des radios régionales, des radios nationales, on a des radios d'information, des radios de divertissement, des radios associatives, des radios commerciales, des radios de service public, bien évidemment. Au total, c'est plus de 1000 stations de radio qui sont déployées sur l'ensemble du territoire en métropole et outre-mer. Et c'est un média que les Français affectionnent tout particulièrement, puisque 3 Français sur 4 écoutent la radio tous les jours, donc c'est plus de 40 millions de Français qui écoutent la radio tous les jours, et pour une durée qui est tout à fait significative, puisque en moyenne, c'est 2h45 d'écoute chaque jour. Je pense aussi que c'est un média qui tire sa force de l'extrême confiance que les Français lui portent. Dans un baromètre que publie tous les ans, début d'année, le quotidien La Croix, 52% des Français estiment crédible l'information qui est diffusée. On croit ce qu'on entend à la radio. Et je crois que les Français donc, apprécient le côté rigoureux dans le traitement de l'information qui fait de ce média-là un média vraiment de confiance. Et puis, c'est un média qui, par sa souplesse, je dirais, par sa capacité à toujours en prise sur les techniques contemporaines de pointe, sait constamment s'adapter aux évolutions de l'auditorat, aux attentes du public. Elle, aujourd'hui, elle investit dans de nouveaux formats. Je pense au podcast, soit pour le rattrapage de programmes qu'on peut désormais entendre quand on le veut, où on le veut d'une part, ou des podcasts natifs qui permettent d'apporter à l'auditeur des programmes spécifiques, particuliers. Et puis, c'est le développement également sur Internet, la diffusion sur Internet maintenant, avec des applications qui se multiplient. Et puis, c'est la radio numérique terrestre, bien évidemment, le DAB+, sur lequel le Conseil supérieur de l'audiovisuel a mis le booster, si je puis dire, au cours des 2 dernières années.
Il fallait bien au moins une victoire de la gauche pour assister aux assises des deux fédérations qui représentent les petites radios. Les deux frères ennemis se sont mis d'accord sur un code de bonne conduite concernant la puissance, le statut et la publicité. Selon ce code, les radios devront être constituées sous forme d'associations à but non lucratif. Et dans ce petit monde des radios libres, on a surtout demandé l'arrêt du brouillage.
Mais on reviendra sur les défis qui attendent la radio. On s'entend, c'est un média qui a beaucoup évolué. Avec une révolution, en 1981, l'émergence de ce qu'on a appelé les radios libres, ça a fait vraiment souffler un vent de liberté sur les ondes.
Oui, sur les ondes et dans le pays. On ne se souvient plus qu'avant 1981, la radio, c'était Radio France, le service public. Et puis, c'était les radios périphériques, les quatre radios périphériques. Périphériques pourquoi ? Parce qu'elles émettaient aux frontières du territoire, puisqu'il y avait un monopole d'État en France sur la radio. Et avec la libération de la bande FM, c'est un mouvement de transformation absolument phénoménal du paysage, c'est l'une des transformations les plus majeures, avec l'apparition de centaines de nouvelles radios, qui a eu un impact quotidien très important sur les Français, parce que d'abord la radio FM s'est imposée comme le média préféré de la jeunesse, en raison de sa liberté de ton, de l'arrivée de nouvelles voix, la nouveauté des contenus qui étaient diffusés, la capacité pour tout un chacun de pouvoir s'exprimer directement. Donc c'est vraiment une grande transformation du paysage qui aboutit à ce paysage très riche et très divers qu'on évoquait tout à l'heure.
Ah, Amédée, elle est chercher ses bouquins de cul.
Non,
le journal.
Oui, le journal de cul.
Non,
mais bien sûr que si.
Le journal pour mettre par terre, pour recueillir...
Ah, la semence.
Ah d'accord, oui. On fait dans la poésie, quoi.
Tu te souviens pas, il avait dit ça une fois.
Ah oui, c'est vrai, oui.
Mets le journal par terre.
C'est vrai que j'ai quelques souvenirs de l'émission Love in Fun sur Fun Radio avec Doc Eddie Fool, où il y avait une énorme liberté de ton pour parler de tout, et notamment de sexe, une révolution aussi à la radio des années 90 pour de nombreux jeunes.
Ce n'est pas sale. C'est comme la rosée sur les pétales d'une rose. Pense aux fleurs.
Malgré tout, 40 ans après, on a un peu le sentiment que cette richesse, ce foisonnement, a disparu au profit des radios commerciales plus professionnelles au réseau, comme ceux de NRJ, de Virgin ou de Skyrock.
Écoutez, je ne crois pas qu'on puisse dire ça en réalité, parce que dans l'action du régulateur, puisque nous avons contribuer à structurer ce paysage de la bande FM tel qu'on le connaît aujourd'hui. Le CSA joue un rôle absolument central dans la gestion de ce parc de fréquences par des procédures d'appel à candidature et d'autorisation des maîtres qui sont accordés à ces stations. Et l'une des règles, l'un des principes de base dans la gestion de la bande FM, c'est un principe vraiment fondateur dans l'action du régulateur, c'est le pluralisme, c'est avoir une pluralité d'acteurs. Et aujourd'hui, dans le parc des fréquences que nous gérons, donc un petit peu moins de 8000 fréquences, vous voyez, c'est totalement considérable. Eh bien, les radios associatives qui sont un peu les héritières de ce qu'on appelait les radios pirates et de celles qui ont bénéficié d'emblée de la libération de la bande FM, elles représentent aujourd'hui encore 20% du parc des fréquences. Elles sont presque 600 sur les plus de 1000 que j'évoquais tout à l'heure. Et elles gardent cet esprit pionnier, cet esprit militant à certains égards, avec toujours une grande liberté de ton. Donc le paysage s'est effectivement structuré. Il s'est beaucoup structuré à partir des années 86 au moment où la publicité commençait à se déployer sur la radio. Donc c'est vrai qu'on a eu des grands réseaux nationaux qui se sont mis en place, notamment pour les radios musicales. Mais on garde un paysage très divers et l'esprit pionnier. Moi, c'est une des choses que j'aime beaucoup dans la radio, dans les contacts quotidiens qu'on peut avoir avec ceux qui font la radio. C'est justement cet esprit pionnier, engagé, passionné. C'est vraiment un média qui est très chaleureux pour ça.
Un média chaleureux, un média d'accompagnement au réveil, le matin, sous la douche, en voiture ou les soirs de match de l'équipe de France de football, commenté par Eugène Saccomano et Pierre-Louis Basse sur Europe 1, comme un certain soir de juin 1998 pour les débuts des Bleus de Zidane et du Gary.
Et c'est Zinedine Zidane qui va donc tirer ce corner. Laurent Blanc est venu aux nouvelles. Marcel Desailly également. Tous les grands gabarits.
But, écoutez des buts, but terrible, but de Dugarry.
La radio, ce n'est pas seulement de l'information, c'est aussi souvent de l'émotion. Et j'ai voulu aussi profiter de ce moment pour connaître l'état de santé de la radio en France. J'ai appelé Marina Alcaraz et Nicolas Madeleine. Ils sont journalistes au service high-tech média des Échos. Alors Marina, d'abord, comment se porte l'écoute de la radio en 2021 ?
Eh bien, malheureusement, pas très bien. La radio fait la fête, mais l'écoute de la radio a durement souffert de la pandémie. Alors la radio reste un média très très fort, bien évidemment, mais les effets de la crise sanitaire se font clairement sentir et y compris en ce début d'année. Alors, la dernière vague des audiences médiamétriques a été publiée mi-avril, l'atteste clairement. Entre janvier et mars, les radios ont perdu 2,1 millions d'auditeurs par jour par rapport à la même période de l'an dernier, pour atteindre environ 40 millions, et c'est un plus bas historique. Hors vague du printemps dernier, en plein confinement, qui est non comparable, et Médiatrie le sort complètement de ses chiffres. Le télétravail, le couvre-feu, les diverses restrictions ont pesé. Alors, il faut bien savoir que l'écoute hors domicile, en voiture en particulier, représente habituellement environ la moitié de l'écoute. Donc, c'est toute cette écoute-là qui est potentiellement partie. Et du coup, certaines habitudes se sont perdues, hein, et les rendez-vous avec tel ou tel animateur qu'on avait, ben, se sont peut-être perdus en même temps que les habitudes des Français ont changé. Les matinales, en particulier, ont accusé le coup, et ça se voit vraiment sur les matinales. Les matinales, c'est vraiment le prime time de la radio, hein, donc c'est extrêmement important, c'est quelque chose que l'on suit beaucoup. Et ces matinales ont perdu environ 1,5 million d'auditeurs par an. Donc, cette tranche du site 9 a encore baissé en plus par rapport à la dernière vague en termes de mesures d'audience, en dépit d'une actualité très forte, et ça, c'est un mauvais signe pour la radio. Toutes les radios généralistes, dites généralistes, ont souffert, et aussi la grande majorité des radios, tout genre confondu. On peut le voir sur les radios leaders, y compris, notamment pour RTL, la leader privée, qui a baissé en audience cumulée et en PDA, en part d'audience, sur un an. France Inter, qui elle est la première radio, hein, également en repli, à la fois en audience cumulée et en légère baisse également en part d'audience. Quelques bonnes nouvelles toutefois, il faut les saluer, notamment dans les radios thématiques. France Info qui s'est distinguée avec une hausse alors que le besoin d'information était extrêmement grand en cette période de chahutée.
Oui Marina, on voit bien que les audiences ont baissé, mais comment est-ce que les radios répondent à ce défi?
Pour tenter de trouver de nouveaux relais de croissance, les radios tentent de développer l'écoute numérique notamment. Ainsi, 6 acteurs publics et privés de la radio se sont associés, là tout dernièrement, c'est un projet qui a duré des mois et ils l'ont annoncé au printemps, dans Radio Player France. Alors ces 6 acteurs, ce sont Altice, qui est RMC, etc., Lagardère, Europe 1, Les Indes Radio, qui est un groupement de radios indépendantes, M6, qui est RTL, on va en parler, Énergie et Radio France, donc il y a France Inter, etc. Donc c'est une application qu'on peut avoir sur un smartphone, qui est simple d'utilisation. Hein. Elle a été lancée en avril, elle permet d'écouter plus de 200 radios, 600 web radios, ainsi que 100 000 podcasts. C'est un projet vraiment ouvert, hein. D'ailleurs pas plus tard que ce lundi matin, 12 nouvelles radios ont annoncé qu'elles rejoignaient le projet. Et c'est un projet en fait visant vraiment à développer cette écoute numérique qui est l'écoute de demain. Aujourd'hui c'est environ 15% de l'audience, c'est environ 8 millions d'auditeurs quotidiens, mais c'est un chiffre en croissance. Et pourquoi finalement aussi cette association un peu inédite, puisque c'est à la fois des concurrents et des acteurs publics, des acteurs privés qui s'associent? En fait, les radios cherchent à maîtriser la distribution de leur contenu face à des agrégateurs comme Tuning, comme Radio Live, voire plus largement Spotify et ses concurrents. Hein. Le problème de ces agrégateurs ou de ces Spotify et consorts, c'est qu'ils reprennent les programmes gratuitement, souvent illégalement, disent les radios, et choisissent eux-mêmes les radios qu'ils diffusent. Donc l'objectif, c'est vraiment maîtriser la distribution des contenus. Le risque pour les radios, c'est qu'il n'y ait plus de lien direct entre la radio et l'auditeur, que les publicités soient mal insérées, que la qualité du son soit altérée. Or, la qualité du son est extrêmement importante pour les radios. Il faut également pour les radios un accès aux données pour savoir ce que les auditeurs écoutent. On sait exactement sur Radio Player où sont implantées les publicités. Elles sont implantées par les radios, ce qui n'est pas le cas avec les agrégateurs. Ils cherchent notamment à avoir plus de puissance face aux constructeurs d'enceintes connectées, qui représentent environ 10% de l'écoute digitale, et aux constructeurs automobiles. Fort logiquement, ensemble, les radios peuvent peser beaucoup plus face à des Google ou des Amazon qui est enceinte connectée que seule. Et face aux constructeurs automobiles, c'est également la même chose, hein, puisqu'elles s'associent à leur fois en France, mais également Radio Player, c'est un projet européen, hein, présent dans plusieurs pays. Des accords ont été trouvés avec des constructeurs automobiles comme BMW, Volkswagen, une gamme électrique de Volvo. L'idée, c'est vraiment d'implanter un bouton unique dans les nouvelles voitures où on pourrait écouter Radio Player.
C'est un secteur en plein bouleversement avec deux grosses radios qui vont changer de main et notamment Europe 1 qui court derrière sa gloire d'antan. Nicolas Madeleine, le sort d'Europe 1 interpelle dans le paysage audiovisuel français?
Oui, le cas Europe 1 est intéressant. Alors, changer de main, oui, certainement. En fait, on peut déjà dire un peu qu'il a changé de main parce que maintenant, le premier actionnaire de Lagardère, dans une gouvernance remaniée, une gouvernance de société normale, le premier actionnaire, donc, c'est Vivendi qui vise Europe 1 depuis longtemps, sans doute parce qu'ils sont intéressés par l'influence politique et le potentiel de redressement qu'il y a de la station. Donc, c'est une situation qui est mouvante. Aujourd'hui, je crois qu'ils ont un peu plus de 25% du capital de Lagardère. Toute la question est de savoir si les autres actionnaires peuvent bloquer leurs initiatives de prendre la main sur la station Europe 1, de mettre des hommes à eux, de changer un peu la rédaction, la ligne éditoriale. Je crois qu'il y a beaucoup de... Enfin, ce qu'on entend, c'est qu'il y a beaucoup d'inconfort au sein de la rédaction d'Europe 1, au sein de la station, où on se demande à quelle sauce on va être mangé. En plus, Europe 1 souffre depuis plusieurs années du point de vue financier. Il a perdu beaucoup d'audience. À un moment, il visait les 10%. Il est aujourd'hui autour des 5%. Il perd de l'argent depuis plusieurs années, sans doute au moins 20 millions d'euros, plusieurs dizaines de millions d'euros. Donc, il y a une rupture conventionnelle collective qui est en place, qui viserait 40 sur 300 personnes dans la station. Donc, c'est une situation pas facile et sans doute un moment charnière pour Europe 1, effectivement.
Les auditeurs connaissent bien ce jingle, c'est celui de RTL qui dispute à France Inter la place de première radio de France. RTL qui s'apprête, Marina aussi, à changer d'actionnaire.
Exactement, on en parle peu dans la fusion TF1-M6, puisqu'on parle surtout de la chaîne M6. Mais dans la corbeille de mariage, dans la corbeille qui apporte M6, il y a aussi RTL, la leader des radios privées, mais aussi deux radios musicales que sont RTL2 et Fun Radio. Alors RTL avait été acquis en 2016 par M6. En face, TF1 n'a pas de radio. Le groupe TF1 a la régie publicitaire des 21 des radios, qui est un groupement donc de radios indépendantes. Donc ça pose pas vraiment de problème pour cette fusion, puisqu'il n'y aura pas de radio vraisemblablement à céder pour faire face au joug de l'autorité de la concurrence. Enfin, a priori, en tout cas, il y aurait moins de problèmes en radio qu'en télé. Et on peut imaginer d'importantes synergies, comme il y en a eu chez RTL M6. Il y a eu d'importantes synergies au sein de RTL M6. Le nouveau groupe, donc TF1 M6, prévoit à terme 250 à 350 millions d'euros de synergies en termes d'EBITDA, des synergies de revenus et des termes de coûts. On peut imaginer que la radio y contribue en partie dans ces synergies. À la rédaction de RTL aujourd'hui, il faut savoir quand même que c'est un peu un soulagement d'être en passe de passer, puisque c'est pas encore fait, hein, il faudra 18 mois pour convaincre les régulateurs, d'être en passe d'arriver chez TF1. Quand j'ai des gens de RTL, ils me disent un petit peu, c'était un peu tout sauf Bolloré.
Nicolas, je reviens vers vous. Comment est-ce que les radios ont traversé financièrement la période de confinement?
Ça a été très dur, hein, surtout au début. La radio est un média qu'on consomme en mobilité, énormément. Et surtout, du point de vue des annonceurs, hein, c'est un média qu'on a appelle, alors peut-être à tort ou à raison, mais c'est un média qu'on dit déclencheur d'actes d'achat. Donc, c'est un média qui conduit vers les magasins. Quand on entend une publicité, on est incité à aller acheter assez rapidement. La télévision, c'est plus un média de création de marque. Hein. Donc, on passe des belles images de voitures, hein, et on construit sa marque avec la puissance de la télévision. Donc, pendant le confinement où les magasins étaient fermés, où les gens étaient bloqués chez eux, la radio a beaucoup souffert, a plus souffert que la télévision pendant les premiers mois. Alors, l'avantage aussi, c'est que la radio, ce sont des annonces, enfin des publicités qui sont plus faciles à réaliser. Donc, elles nécessitent moins de moyens, elles peuvent se faire plus rapidement. Et puis, jusqu'à maintenant, les déconfinements ont montré que les gens reprenaient assez vite leur consommation. Donc, l'espoir, c'est que la publicité radio soit utilisée pour accompagner la reprise économique. On a vu au premier semestre, RTL a affiché une perte opérationnelle qui était liée beaucoup à la crise à partir de mars. Et sur l'ensemble de l'année, RTL est revenu dans le vert. Donc même si ça a été dur l'année 2020, ils sont quand même revenus dans le vert. Et puis le chiffre d'affaires du pôle radio de RTL a quand même progressé de 9% au premier trimestre. Donc un impact de la crise vraiment dur et soudain, mais un espoir de remonter un petit peu. Sauf si la dégradation de l'audience du média radio en général se poursuit évidemment.
On Roch-Olivier Maistre, je reviens vers vous, président du CSA. On entend bien que l'équation économique devient difficile. Le réseau de Lagardère est à vendre. Bertelsmann se sépare de RTL. Il y a le poids des radios publiques financées par la redevance et plus ouvertes aussi à la publicité qui prennent beaucoup d'espace sur les ondes. La crise du coronavirus, les confinements à répétition ont bouleversé les habitudes des auditeurs. Est-ce qu'il y a un danger pour la radio ?
Personnellement, je ne crois pas, même si la radio a subi bien sûr des conséquences de la crise. Ce qui est remarquable sur la gestion de la crise, c'est l'adaptation de ce média par sa souplesse justement à la situation pour assurer aux Français toujours plus d'informations, plus de divertissement, plus d'accès à la culture, plus de services. Il y a eu une forme de résilience qui a été très remarquable tout au long de la crise. On pourrait dire d'ailleurs la même chose de la télévision, mais la radio a vraiment, elle a été fidèle au rendez-vous, hein, si je puis dire, dans cette gestion de la crise. Alors elle a subi incontestablement une contraction de ses recettes, des recettes de publicité. La radio a plus souffert que la télévision. Elle a souffert également du fait du confinement, de l'arrêt des mobilités. La radio, comme vous le savez, on l'écoute à la fois à son domicile avec les postes dont on dispose, mais on l'écoute aussi beaucoup dans les voitures avec l'autoradio. Et bon, du fait du confinement, la mobilité a tombé. Donc il y a une chute effectivement d'audience qui a pu être constatée, mais qui est largement conjoncturelle. Moi, je crois qu'elle garde vraiment beaucoup d'atouts. C'est vrai qu'on a quelques mouvements de concentration qui sont à l'œuvre. Donc on a eu le rachat de RTL par M6. On a Vivendi qui est rentré au capital de Lagardère et qui donc par ce biais-là rentre, si j'ose dire, à Europe 1. On a certes l'opération TF1-M6 qui vient d'être annoncée, mais TF1 n'est pas un acteur de la radio. Il est acteur sur la régie publicitaire qui dessert les radios indépendantes, notamment de façon très efficace, mais il n'y a pas de station de radio qui soit attachée au groupe TF1. Donc voilà, et la deuxième chose que je voulais dire sur ce plan-là, c'est qu'on a des règles anti-concentration qui limitent la constitution justement de pôles trop importants. Ce qui est central dans l'action qu'on conduit, c'est la défense du pluralisme des opérateurs.
Derrière le projet de rapprochement entre TF1 et M6 qui est discuté actuellement, il y a la volonté d'être un acteur de poids plus important par rapport aux défis qui attendent la télé. Bien sûr, le streaming, on parle beaucoup de Netflix en télévision, mais il y a aussi des défis qui attendent les radios aujourd'hui.
Oui, je pense qu'il y a quand même des défis qui portent notamment sur l'auditorat le plus jeune, sur lequel effectivement il faut que la radio... elle s'y engage très largement, soit toujours en initiative, d'où l'importance des web radios que les jeunes utilisent davantage, d'où l'importance d'imaginer de nouveaux formats à proposer et d'où l'importance également de s'investir dans des nouvelles technologies. Et c'est là où le DAB+, la radio numérique terrestre, va jouer une place très importante. C'est l'une des grandes évolutions technologiques du secteur après la bande FM. C'est un mode de diffusion qui est écologique, qui est peu coûteux, qui offre à l'auditeur un confort d'écoute supérieur avec une qualité de son numérique, qui a l'avantage de donner plus de confort quand on est en mobilité parce que le signal suit automatiquement. On n'a pas besoin de rechercher une fréquence quand on circule, par exemple, sur un axe autoroutier. Et puis, c'est un vecteur qui permet de donner aussi plus d'informations à l'auditeur sur les programmes qu'il écoute. Donc, le défi pour la radio, c'est ça, c'est d'être toujours à la pointe des technologies du moment. Et elle le fait, vraiment. Vous avez vu le déploiement du Radio Player tout récemment, qui a fédéré très largement les radios de France. Le déploiement du DAB+, qui maintenant s'accélère, on couvre environ 30% du territoire. L'objectif pour la fin de l'année 2022, donc la fin de l'année prochaine, c'est d'être à 50%. Donc on va franchir vraiment une étape très significative. Donc être à la pointe des progrès techniques et technologiques et en même temps toujours adapter ses formats pour être en phase avec ses auditeurs. Et c'est notamment là l'enjeu du podcast. Donc voilà, là, il y a sûrement des éléments pour elle d'interrogation parce qu'il y a des concurrences qui se mettent en place. Hein. Je pense là... plus spécifiquement aux radios musicales, avec le développement des plateformes de streaming musical, qui bien évidemment impactent ces radios. Mais je crois, quand je vois, quand on lance des appels à candidature pour le DAB+, ou sur la bande FM, quand je vois le nombre de candidatures qui se présentent, il y a toujours beaucoup plus d'appelés que d'élus, et tout ça, ça recouvre beaucoup d'esprit d'initiative, beaucoup d'imagination. Donc c'est un média qui reste extrêmement vivant, et qui, je crois, peut regarder son futur avec confiance.
Merci Roch-Olivier Maistre, président du CSA, et merci à Marina Alcaraz et Nicolas Madeleine du service high-tech média des Échos. J'en profite aussi pour faire un amical coucou au service archives d'Europe 1 et notamment à Sylvaine Denis. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Pour suivre l'actualité des médias mais aussi les décryptages et analyses de la rédaction, rendez-vous sur leséchos.fr.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.